Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cette fête de la présentation de l'enfant Jésus au Temple et de la purification de Notre-Dame, qui remonte très probablement aux temps apostoliques, est la clôture solennelle du temps de Noël. En Orient, on appelle cette fête la fête de la rencontre. Pourquoi ? Parce que le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, inspirés par l'Esprit Saint, étaient venus en ce jour à la rencontre de la Sainte Famille dans le Temple de Jérusalem. Cette venue de notre Seigneur au Temple à l'aube de sa vie terrestre a une signification très importante. Dans le Temple construit par le roi Salomon, dans sa partie la plus sacrée, le Saint des Saints, se trouvait l'Arche d'Alliance, qui contenait les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements révélés à Moïse, de la manne qui avait nourri les Hébreux pendant 40 ans lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte, et la verge, le bâton d'Aaron, le premier prêtre de l'Ancienne Alliance. Lorsque le temple a été ruiné par les Babyloniens, au moment du départ des Hébreux en exil, le prophète Jérémie avait eu le temps d'en enlever l'Arche d'Alliance avec son précieux contenu et de les cacher dans la montagne, dans une grotte qui, dans le plan de Dieu, ne devait jamais être retrouvée. Après 70 ans d'exil, les Hébreux sont revenus en Terre Sainte et le temple a été reconstruit de manière encore plus splendide. Mais le Saint des Saints demeurait vide. C'est qu'il attendait notre Seigneur Jésus-Christ, qui devait être la loi vivante, par l'exemple qu'il donnerait de sa vie, qui serait notre nourriture, par l'institution de la Sainte Eucharistie, et qui serait le souverain prêtre, prêtre et victime tout à la fois de l'unique sacrifice qui devait sauver le monde. Mais il faut aller plus loin. Notre Seigneur arrivait dans le Temple non seulement pour être notre loi, notre nourriture et notre prêtre. Il arrivait pour être lui-même le Temple, dont cet édifice de pierre n'était que l'annonce, la figure. Détruisez ce Temple et en 3 jours je le rétablirai, dira-t-il un jour aux pharisiens. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et vous le rétablirez en 3 jours, répondirent-ils. Ils ne comprenaient pas le sens de cette parole, pensant que Jésus parlait de l'édifice de pierre. Et d'ailleurs, ils le lui ressortirent lors du simulacre de procès du jeudi saint au soir. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Il déformait ses paroles. Saint Jean explique très bien dans son évangile. Jésus parlait du temple de son corps. Après donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus leur avait dite. Et c'est du temple de son corps, percé par la lance du soldat le vendredi saint au calvaire, que naîtra l'Église, corps mystique de notre Seigneur, dont il est la tête et dont nous sommes les membres, et nous vivons de la grâce qui nous vient de la tête. Les prêtres qui se trouvaient dans le temple ce jour-là ont reçu la Vierge Marie et Saint Joseph comme ils recevaient les autres parents venant offrir leur premier-né, sans savoir quelle était cette famille. C'est que les temps n'étaient pas encore venus pour Jésus de révéler sa mission. Nous sommes dans la vie cachée. Mais la Providence a voulu qu'il y ait quand même 2 témoins de cet événement important. Siméon et Anne, choisis par le ciel parce qu'ils avaient gardé le sens des prophéties. Ils attendaient non pas un Messie temporel qui les délivrerait des Romains et qui leur ferait dominer le monde, comme le croyaient la plupart des Juifs, mais un Messie sauveur des âmes du monde entier, C'est sous l'influence de l'Esprit-Saint que tous deux se rendirent au temple ce jour-là et qu'ils reconnurent la Sainte Famille. Alors, s'approchant, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et bénissant Dieu, il s'écria « Mes yeux ont vu le salut que vous avez préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, votre peuple. » Oui, notre Seigneur est la lumière du ciel, descendue sur terre pour révéler Dieu au monde. Il est certes la gloire d'Israël, puisque c'est le peuple hébreu qui avait eu la mission de préparer sa venue et que c'est en son sein qu'il s'est incarné. Mais le message qu'il apporte concerne toutes les nations. Nous l'avons chanté lors de la remise des cierges. Cette lumière, nous l'avons reçue chacun de nous par le don de la foi au jour de notre baptême. C'est pourquoi le prêtre nous a remis ce jour-là, ou a remis à notre parrain ou marraine, un cierge allumé en disant « Recevez ce flambeau ardent ». Ce flambeau représentait la lumière de la foi qui brillait alors, maintenant, dans notre âme. L'Église, d'ailleurs, fait reprendre plusieurs fois dans sa liturgie ce cierge allumé, non seulement au jour de la purification, mais lors de la vigile pascale, également pendant les cérémonies d'ordination, etc. Le samedi saint, le symbolisme est même très clair. Après que le diacre ait chanté trois fois « Lumen Christi », nous allumons nos cierges au cierge pascal qui représente notre Seigneur, montrant par là que c'est de notre Seigneur que nous recevons cette lumière de la foi. Que nous fait-elle voir? Eh bien, elle éclaire nos intelligences sur les réalités éternelles qui autrement nous seraient restées inconnues. Que Dieu est en trois personnes, que Jésus-Christ est en Dieu et le seul Sauveur, que nous avons au ciel une mère de nos âmes qui veille sur nous jour et nuit. La foi nous enseigne l'existence d'une providence divine qui nous conduit tout au long de notre vie. Elle nous apprend le sens de la souffrance et sa valeur lorsqu'elle est unie aux souffrances de Jésus en croix. Elle nous apprend qu'après cette vie terrestre, les hommes iront au ciel, au purgatoire ou en enfer, selon le mérite ou le démérite de leur vie, etc. Cette fête du 2 février, avec sa procession au flambeau, avec ses cierges que nous tenons allumés pendant la messe, cette fête est vraiment la fête de la lumière, la chandeleur, un mot qui vient de chandelle, cierge. L'Église en ce jour nous fait rendre grâce pour ce don de la foi que nous avons reçu au baptême et qui est la lumière de toute notre vie, sans laquelle notre vie n'aurait plus aucun sens, sans laquelle nous serions des aveugles et des conducteurs d'aveugles, comme beaucoup de nos contemporains le sont, hélas. Il faut bien réaliser que c'est une grâce extraordinaire à notre époque où la foi disparaît, de l'avoir gardée intacte. Et ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas parce que nous serions meilleurs que les autres, c'est par un don gratuit de notre Seigneur. Alors il nous faut prier pour qu'il nous la garde et qu'il la garde dans nos familles. Il faut aussi l'entretenir, comme on entretient le feu dans la cheminée, de peur qu'il ne s'éteigne. La foi a besoin en effet de nourriture. La nourriture de la foi, ce sont les conférences, les cellules doctrinales, comme font certains, c'est la lecture religieuse, livres de doctrine, vie de saint, livres sur la crise dans l'Église, pour affermir nos convictions et pour les transmettre à la jeunesse. Les sermons du dimanche ne suffisent pas. Quand la foi est en danger, il faut la nourrir. Et il faut savoir ce qui peut nous la faire perdre. Ne pas se contenter de la culture Internet. Un minimum peut-être pour se tenir un peu au courant, mais jamais aux dépens de la prière et de la lecture. Et enfin, bien sûr, pour garder la foi, il faut vivre en conformité avec ce que nous enseigne la foi. Quand on ne vit pas comme on pense, on en vient à penser comme on vit. Le premier souci de nos contemporains, c'est de gagner le plus d'argent possible pour profiter des facilités et des plaisirs du monde moderne, qui sont d'ailleurs en train de leur échapper en ce moment avec la crise Covid, d'où leur désespoir. Notre premier souci à nous, ce doit être notre sanctification et celle de ceux dont on a la charge. Cherchez le royaume de Dieu en premier et le reste vous sera donné par surcroît. Si l'on continue la lecture de Saint Luc dans l'Évangile, on voit le discours de Siméon changer subitement de ton. Se tournant vers Notre-Dame, il ajoute « Voici que cet enfant est établi pour la ruine et la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera la contradiction. Et à vous-même, un glaive transpercera votre âme afin que les pensées d'un grand nombre soient dévoilées. » Par sa venue sur terre, notre Seigneur révèle les pensées des hommes. Les uns sont pour lui, les autres contre. Il est la lumière du monde, et la lumière chasse les ténèbres. Les deux ne peuvent pas coexister. Lorsque le soleil paraît le matin, il chasse toujours la nuit. Il ne peut pas en être autrement. Mais ceux qui ont choisi de vivre dans les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière de la vérité que notre Seigneur vient apporter. Alors il y a un combat. Dès la naissance de notre Seigneur, le pouvoir civil de l'époque, représenté par Hérode, a cherché à le mettre à mort. Ce sera le massacre des saints innocents. Et la vie cachée de Jésus est appelée ainsi, non seulement parce que ce sont ces années où notre Seigneur se préparait dans le silence et la prière à sa vie publique, mais aussi parce que Saint Joseph et la Vierge Marie devaient s'employer à cacher Jésus, à ce que personne ne sache qui il était, pour qu'il ne soit pas enlevé et mis à mort. La lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. C'est le prologue de Saint Jean que nous lisons à la fin de chaque messe. Et ce qu'il en a été de la tête du corps mystique de notre Seigneur, eh bien s'est produit aussi pour ses membres. Selon ce que Dieu avait dit aux démons après la chute de nos premiers parents, « Je mettrai une inimitié entre toi et la descendance de la femme, Notre-Dame. Elle t'écrasera la tête et tu la mordras au talon. » Le talon désigne ici l'Église, les chrétiens. « Si le monde vous hait, dit notre Seigneur, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait, parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Il ne faut donc pas s'étonner quand on essaye de vivre pleinement sa vie chrétienne, de rencontrer des incompréhensions, de l'opposition autour de nous, parfois même au sein de notre propre famille. Mais ne nous décourageons pas. Tout cela est une occasion unique pour notre salut, de prouver notre amour à notre Seigneur en lui restant fidèle. Et au bout, il y a le ciel. Mais le décalage qui grandit entre la façon dont nous vivons en tant que catholiques et un monde qui s'éloigne de plus en plus de notre Seigneur, ce décalage ne doit pas être un prétexte pour nous replier sur nous-mêmes. Continuons la lecture de Saint Luc. Il y avait une prophétesse, Anne, âgée de 84 ans, qui était veuve et qui, depuis son veuvage, ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans les jeûnes et les prières. Étant survenue à cette même heure, elle louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. Cette fête de la purification, fête de la lumière, est une fête missionnaire. Parce que le propre de la lumière est d'éclairer. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, dira notre Seigneur, mais sur un chandelier pour qu'elle éclaire bien la pièce. C'est une grâce extraordinaire, avons-nous dit, d'avoir reçu le don de la foi à notre époque. Mais cette grâce nous donne en même temps des devoirs, non seulement de la garder et d'en vivre. Si nous ne le faisions pas, nous serions plus coupables que ceux qui n'ont rien reçu ou qui ont moins reçu, ne l'oublions pas. Mais devoir aussi de la communiquer autour de nous, spécialement à ceux dont nous pouvons avoir la charge. Les parents à l'égard de leurs enfants, les professeurs à l'égard de leurs élèves, et puis toutes les personnes que la Providence nous fait rencontrer, avec qui elle nous fait vivre au travail, dans le quartier, dans l'immeuble. En ce moment, avec ces chapelets publics, il y a des occasions de faire de l'apostolat. Ces gens qui arrivent et qui viennent prier, venant de partout. Pensons qu'aujourd'hui, comme l'Église est quasiment invisible, le seul contact que les non-chrétiens, les non-pratiquants puissent avoir avec notre Seigneur, ce sont les chrétiens qui le leur font découvrir d'abord par l'exemple de leur vie, leur pureté, leur sens du devoir, leur charité. En cette fête de la purification, qui est aussi la fête de la Vierge Marie, puisqu'elle vient en ce jour offrir son Fils pour le salut du monde et s'offrir avec lui, demandons à Notre-Dame de nous offrir à notre tour à toutes les volontés de notre Seigneur pour notre salut et le salut des âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.